Chapitre 25. L'arrivée de Bazarov réjouit d'autant plus ses parents qu'ils ne l'attendaient point. Arina Vlassievna en fut tellement bouleversée qu'elle ne faisait que courir dans la maison. Son mari finit par la comparer à une perdrix. La petite queue retroussée de sa camisole lui donnait effectivement quelque ressemblance avec un oiseau. Vassili Ivanovitch lui-même grognait continuellement avec satisfaction en suçant du coin de sa bouche le bout d'ambre de sa pipe. Puis, se prenant le cou avec ses doigts, il tournait convulsivement la tête, comme pour s'assurer qu'elle était bien en place, et ouvrant tout à coup la bouche toute grande, il se mettait à rire sans bruit. « J'arrive, pour 6 semaines au moins, mon vieux, » lui dit Bazarov. « Je veux travailler et j'espère que tu me laisseras en paix. »« Tu oublieras ma physionomie. Voilà à quel point je te gênerai, » répondit Vassili Ivanovitch. Il ne manqua pas à sa promesse. Ayant établi son fils, comme la première fois, dans le cabinet, il semblait presque se cacher de lui et empêcher sa femme de s'abandonner à son égard à une sensibilité trop démonstrative. « Je crois bien, lui disait-il, que nous avons un peu ennuyé Enyushenka pendant son premier séjour. Il faut nous montrer plus sages maintenant. » Arina Vlassievna approuvait son mari, mais elle n'y gagnait pas grand-chose, car elle ne voyait son fils qu'au moment des repas et craignait de lui adresser la parole. « Enyushenka, lui disait-elle, et celui-ci n'avait pas encore eu le temps de se retourner, que, passant entre ses doigts les cordons de son réticule, elle balbutiait « Rien, rien, ce n'est rien. » Puis elle entrait chez Vassili Ivanovitch et lui disait, la joue appuyée sur sa main, « Comment pourrions-nous bien savoir, mon chéri, ce que Enyusha aimerait mieux avoir aujourd'hui à dîner, du shchi ou du borch ?»« Pourquoi ne le lui as-tu pas demandé ?» répondait-il. « J'ai eu peur de l'ennuyer. » Bazarov cessa bientôt lui-même de se tenir enfermé. La fièvre de travail à laquelle il était en proie fut remplacée par une sorte d'ennui sombre et inquiet. Un accablement étrange se faisait remarquer dans tous ses mouvements. Sa démarche même, jusque-là si ferme et si rapide, changea visiblement. Il ne fit plus de promenades solitaires et commença à rechercher la société. Il se mit à boire le thé dans le salon, à flâner dans le potager avec Vassili Ivanovitch et à fumer avec lui en silence. Il demanda un jour des nouvelles du père Alexis. Ce changement réjouit d'abord beaucoup Vassili Ivanovitch. Mais sa joie ne fut pas de longue durée. « Enyusha me désole, » dit-il un jour confidentiellement à sa femme. « Ce n'est pas qu'il soit mécontent ou irascible, cela ne m'inquiéterait pas, mais il est triste, chagrin, c'est désespérant. Il se tait, j'aimerais mieux qu'il nous grondât. Avec cela, il maigrit et son teint est mauvais. « Oh, mon Dieu !» répondait la vieille en soupirant. « Je lui mettrais bien un sachet de reliques au cou, mais il n'y consentirait pas. » Vassili Ivanovitch tenta à plusieurs reprises d'interroger prudemment Bazarov sur ses occupations, sur sa santé, sur Arcade. Mais Bazarov lui répondait de mauvaise grâce et finit par lui dire avec dépit « On dirait que tu marches autour de moi sur la pointe des pieds. Cette manière-là est encore plus mauvaise que la première. »« Allons, allons, je ne le ferai plus, » reprit précipitamment le pauvre Vassili Ivanovitch. Les conversations politiques n'eurent pas plus de succès. Un jour, ayant abordé la grande question du progrès à propos du prochain affranchissement des paysans, il s'imagina que cela plairait à son fils. Mais celui-ci répondit avec indifférence « Hier, en passant derrière la haie du jardin, j'entendis des petits paysans s'égosiller, crier, au lieu d'une de leurs vieilles chansons, « Le temps de la fidélité est venu, les cœurs sentent les atteintes de l'amour. Voilà ton progrès !» Bazarov se rendait quelquefois au village et se mettait à causer, suivant son habitude, d'un air railleur avec le premier paysan venu. « Voyons, lui disait-il, expose-moi tes idées. En prétend que vous constituez la force et l'avenir de la Russie. Avec vous commencera une nouvelle époque de notre histoire. Vous nous donnerez notre véritable langue et de bonnes lois. » Le paysan se taisait, ou bien il prononçait des paroles dans le genre de celle-ci. Nous pourrions bien effectivement, parce que d'ailleurs, selon la règle, par exemple, qui nous est donnée. Explique-moi ce que c'est que votre mire, lui demandait Bazarov. Est-ce celui qui repose sur 3 poissons? C'est la terre qui repose sur 3 poissons, répliquait le paysan d'un ton convaincu et en donnant à sa voix une mélopée patriarcale et naïve. et chacun sait que la volonté seigneuriale est toute puissante contre notre mire, car vous êtes nos pères. Plus le maître est sévère, et plus le paysan est aimable. » Un jour qu'il venait d'entendre un pareil discours, Bazarov haussa les épaules avec mépris et se détourna du paysan qui regagna tranquillement son toit. « De quoi t'a-t-il parlé ? » demanda à ce dernier un autre paysan, homme entre deux âges, à la mine rébarbative, et qu'il avait vu du seuil de sa porte causer avec Bazarov. « Est-ce des redevances en retard ?»« Ah bien oui !» reprit le premier paysan, et sa voix n'avait plus de trace de mélopée patriarcale. Elle laissait percer, au contraire, une rudesse pleine de dédain. Il a bavardé avec moi pendant que la langue lui démangeait sans doute. Les maîtres sont tous les mêmes. Est-ce qu'ils comprennent quelque chose ? Comment comprendraient-ils quelque chose ? Lui dit son interlocuteur. Et, ayant secoué leur bonnet et abaissé leur ceinture, ils se mirent à causer tous deux des affaires de la commune. Hélas, le jeune homme plein d'assurance, qui venait de s'éloigner en levant dédaigneusement les épaules, ce Bazarov qui savait si bien parler aux paysans, comme il s'en était vanté dans sa discussion avec Paul Petrovitch, ne soupçonnait même pas que ceux-ci le considéraient comme une sorte de bouffon. Au reste, il finit par se trouver une occupation. Un jour, Vassili Ivanovitch pansait en sa présence la jambe blessée d'un paysan. Les mains du vieillard tremblaient, et il éprouvait quelques difficultés à serrer les bandages. Bazarov vint à son aide. À partir de ce moment, il continua à assister son père dans sa tâche de docteur, sans cesser pour cela de plaisanter sur les remèdes qu'il conseillait lui-même, sur l'empressement avec lequel son père les mettait en pratique. Mais ces plaisanteries ne déconcertaient nullement Vassili Ivanovitch, il les trouvait au contraire fort à son goût. C'était avec un véritable bonheur qu'il écoutait Bazarov, tout en fumant sa pipe et en retenant avec deux doigts les pans de sa vieille robe de chambre, et plus les paroles de son fils étaient venimeuses, plus l'heureux père riait de bon cœur en montrant toutes ses dents noirâtres. Il allait jusqu'à répéter les sorties quelquefois dénuées de sel ou n'ayant aucun sens que faisait son fils. Ainsi, par exemple, il répéta à tout propos plusieurs jours durant « Ceci, c'est pour le dessert », uniquement parce que son fils, ayant appris qu'il s'était rendu à Matine, avait employé cette expression. « Dieu merci, » dit-il confidentiellement à sa femme, « Enyusha a oublié son hypocondrie. Comme il m'a arrangé aujourd'hui !» D'un autre côté, il ne se sentait pas d'aise en se voyant un tel aide. Cette idée lui inspirait un sentiment d'orgueil exalté. « Oui, oui, » disait-il à quelques pauvres paysannes enveloppées dans l'armiac de son mari, et portant son kitchka à cornes, à qui il remettait une fiole d'eau de goulard ou un petit pot d'onguen de justiame. « Tu devrais remercier Dieu à tout instant, ma chère, d'avoir amené ici mon fils. On te traite maintenant d'après la plus savante méthode du jour. Comprends-tu cela ? L'empereur des Français, Napoléon lui-même, n'a pas un meilleur médecin. » La paysanne à laquelle il adressait cette exhortation, et qui était venue se plaindre de se sentir soulevée par de petits points, sans pouvoir expliquer le sens de ses paroles, écoutait Vassili Ivanovitch en le saluant jusqu'à terre et en tirant de son sein trois œufs enveloppés dans le bout d'une serviette qui constituait son offrande. Bazarov arracha même une dent à un marchand forain, et quoique cette dent n'eût rien de particulier, Vassili Ivanovitch la conserva comme une pièce rare et répéta plusieurs fois en la montrant au père Alexis « Voyez-vous, père, quelle racine ! Il faut que Gênes ait un fameux poignet. J'ai vu le marchand soulever en l'air. C'était magnifique. Je crois vraiment qu'un chêne n'y aurait pas résisté. » « C'est méritoire, » répondit le prêtre, ne sachant trop comment couper court à l'extase du vieillard. Un paysan du voisinage amena un jour à Vassili Ivanovitch son frère qui avait le typhus. Le malheureux était étendu, expirant sur une botte de paille. Des taches noirâtres couvraient tout son corps. Il était sans connaissance depuis longtemps. Vassili Ivanovitch regretta qu'on n'eût pas songé plus tôt à demander, pour ce malheureux, les secours de la médecine, et déclara qu'il n'y avait aucune possibilité de le sauver. Effectivement, le paysan ne put être ramené chez lui. Il expira en route dans sa téléga. Deux ou trois jours après, Bazarov vint trouver son père et lui demanda s'il n'avait pas de la pierre infernale. « Oui, mais que veux-tu en faire ? J'en ai besoin pour cautériser une petite plaie. Qui est-ce qui s'est blessé ? C'est moi. « Comment, toi ? Quelle est cette plaie ? Montre-la-moi. »« Tiens, c'est sur ce doigt. Je me suis rendu ce matin dans le village, d'où l'on nous avait amené ce paysan qui est mort du typhus. Je ne sais pourquoi on voulait faire son autopsie. Il y a longtemps que je ne m'étais livré à ce genre d'opération. Eh bien, j'ai demandé au médecin du district à m'en charger, et je me suis coupé. » Vassili Ivanovitch pâlit subitement, courut sans prononcer une seule parole dans son cabinet, et en revint avec un morceau de pierre infernale. Bazarov voulut la prendre et sortir de la chambre. « Au nom du ciel !» lui dit Vassili Ivanovitch, « permets-moi de te brûler !» Bazarov sourit. « Quel amour de la pratique ! Ne plaisante pas, je t'en supplie. Montre-moi ton doigt. La plaie n'est pas grande. Je ne te fais pas mal ? Appuie ferme, n'aie pas peur. » Vassili Ivanovitch s'arrêta. « Peut-être vaudrait-il mieux la brûler avec un fer chaud. Qu'en penses-tu ? » « Nous aurions dû le faire plus tôt. Maintenant, cela ne serait pas plus efficace que la pierre infernale. Si j'ai gagné le mal, il n'y a plus de remède. »« Comment, plus de remède ? » balbutia Vassili Ivanovitch. « Sans doute, il y a plus de 4 heures que je me suis coupé. » Vassili Ivanovitch appliqua de nouveau la pierre infernale sur la blessure. Le médecin du district n'avait donc pas de pierre infernale ? Non. Grand Dieu, c'est incroyable. Tout médecin doit en être pourvu. Si tu avais pu voir ces lancettes, reprit Bazarov, et il sortit. Pendant le reste de la journée et le lendemain, Vassili Ivanovitch imagina toutes sortes de prétextes pour entrer dans la chambre de son fils. Et quoiqu'il ne lui parlât point de sa blessure, et s'efforça même de causer de choses insignifiantes, il le regardait si fixement et observait tous ses mouvements avec tant d'inquiétude que Bazarov perdit patience et le menaça de s'en aller. Vassili Ivanovitch lui promit de ne plus se tourmenter, d'autant mieux qu'Arina Vlasievna, à laquelle il n'avait bien entendu rien confié, commençait à insister auprès de lui pour savoir pourquoi il paraissait inquiet et ne fermait pas l'œil de la nuit. Il tint bon cependant pendant 2 jours, quoique la figure de son fils, qu'il observait constamment à la dérobée, ne le rassura nullement. Mais le 3e jour, il ne put plus se contenir. On était à table, et Bazarov, qui tenait les yeux baissés, ne mangeait rien. « Pourquoi ne manges-tu pas, Eugène ? » lui demanda son père en prenant un air indifférent. « Ces plats me semblent pourtant bien accommodés. »« Je ne mange pas parce que je n'ai pas envie de manger. »« Tu n'as pas d'appétit ? » ?»« Et la tête, ajouta-t-il, te fait-elle mal ? » ?»« Oui. Pourquoi n'y aurais-je pas mal ?» Arina Vlasievna devint attentive. « Ne te fâche pas, je t'en prie, Eugène, » continua Vassili Ivanovitch, « mais permets-moi de te tâter le pouls. » Bazarov se leva. « Je te répondrai sans me tâter le pouls que j'ai de la chaleur. » « Et tu as eu le frisson aussi ? » ?»« Oui, je vais m'étendre un peu. Envoyez-moi une infusion de fleurs de tilleul. Je dois avoir pris froid. » « C'est donc ça que cette nuit je t'ai entendu tousser, » reprit Arina Vlasievna. « J'ai pris froid, » répéta Bazarov en s'éloignant. Arina Vlasievna se mit à préparer l'infusion, et Vassili Ivanovitch passa dans la chambre voisine, où il se prit par les cheveux sans proférer une parole. Bazarov resta couché tout le reste de la journée et passa la nuit dans un état de somnolence lourde et fatigante. Ayant ouvert péniblement les yeux vers 1 heure du matin, il aperçut, à la lueur de la veilleuse, la figure pâle de son père qui se tenait à son chevet, et il le pria de se retirer. Le vieillard obéit, mais il rentra presque aussitôt sur la pointe du pied et, blotti derrière la porte entr'ouverte d'une armoire, il continua à observer son fils. Arina Vlasievna ne se coucha pas non plus. Elle venait écouter à tout moment, à la porte du cabinet, la respiration d'Enyusha et s'assurer que Vassili Ivanovitch était toujours à son poste. Elle ne pouvait distinguer que le dos immobile de son mari penché en avant. Mais cela suffisait à la tranquilliser un peu. Bazarov essaya de se lever lorsque le jour eut paru. Il fut pris d'un étourdissement, bientôt suivi d'un saignement de nez, et ne tarda pas à se recoucher. Vassili Ivanovitch l'assistait en silence. Arina Vlasievna s'approcha et lui demanda comment il se sentait. « Je me trouve mieux, » répondit-il en se tournant du côté du mur. Vassili Ivanovitch fit signe des 2 mains à sa femme de se retirer. Elle se mordit la lèvre pour ne point pleurer et sortit. Tout parut s'obscurcir en quelque sorte dans la maison. Toutes les figures s'allongèrent. Un silence étrange régnait jusque dans la cour. On relégua au village un coq criard que ce procédé dut singulièrement surprendre. Bazarov continuait à rester couché, la figure tournée du côté du mur. Vassili Ivanovitch lui adressa plusieurs fois la parole, mais ses questions fatiguaient le malade, et le vieillard resta immobile dans son fauteuil, en se tordant les doigts de temps en temps. Il allait pour quelques minutes dans le jardin, et y demeurait immobile comme une statue. Il semblait sous le coup d'un étonnement inouï, l'expression de la surprise ne quittait presque point sa figure. Puis il retournait vers son fils en cherchant à éviter sa femme. Elle réussit enfin à le saisir par la main et lui demanda convulsivement, presque d'un ton de menace, « Qu'a-t-il donc ?» Vassili Ivanovitch, pour la rassurer, essaya de sourire, mais, à sa propre stupéfaction, ce fut un éclat de rire qui partit de ses lèvres. Il avait envoyé chercher un médecin à la ville dès le matin. Il jugea convenable d'en prévenir son fils, afin que celui-ci ne lui en fît point de reproche en présence de son confrère. Bazarov se tourna tout à coup sur le divan où il était couché, regarda fixement son père et lui demanda à boire. Vassili Ivanovitch lui donna de l'eau et profita de ce moment pour poser la main sur son front. Il était brûlant. « L'ancien, » dit Bazarov lentement et d'une voix rauque. « Cela prend une méchante tournure. J'ai gagné une infection, et tu me mettras en terre dans quelques jours. » Vassili Ivanovitch chancela comme s'il eût reçu un coup violent dans les jambes. « Eugène, » balbutia-t-il, « que dis-tu là ? C'est un simple refroidissement. »« Allons donc, » reprit Bazarov, « il n'est pas permis à un médecin de dire de pareilles choses. » J'ai tous les symptômes d'une infection, tu le sais bien. Les symptômes d'une infection ? Oh non, Eugène ! Qu'est-ce donc que cela ? Dit Bazarov, et retroussant la manche de sa chemise, il montra à son père les taches rougeâtres d'un mauvais augure qui couvraient sa peau. Vassili Ivanovitch pâlit d'effroi. Admettons, quand même, cela serait quelque chose comme une infection épidémique. C'est une pyoémie, dit son fils. Oui, une affection épidémique, une pyoémie, répéta Bazarov distinctement et d'un ton rude. Tu as donc oublié tes cahiers d'études ? Allons, je le veux bien, je le veux bien, mais toujours est-il que nous te guérirons. Chanson que tout cela, parlons raison. Je ne pensais pas mourir si tôt. C'est là un incident qui, je l'avoue, me paraît assez désagréable. Ma mère et toi, vous ferez bien de recourir à vos sentiments religieux. Voilà une belle occasion de les mettre à l'épreuve. Il but un peu d'eau. Il faut que je te demande quelque chose pendant que ma tête est encore à mes ordres. Demain ou après-demain, ma cervelle aura donné, comme tu le sais, sa démission. Il est possible même que maintenant, je ne m'exprime pas bien clairement. Tout à l'heure, je me croyais poursuivi par des chiens rouges, et tu m'attendais à l'affût absolument comme on attend un coq de bruyère. Il me semble que je suis ivre. Me comprends-tu bien ? Certainement, Eugène, tu parles très sensément, comme d'habitude. Tant mieux. Tu m'as dit que tu as envoyé chercher un médecin. Je ne t'ai pas empêché de te procurer cette satisfaction. Procure-m'en une à ton tour. Il faut t'envoyer un express. À Arkad Nikolaïevitch ? Demanda le vieillard avec empressement. « Qui est cet Arkad Nikolaïevitch ? » reprit Bazarov comme dans un moment d'absence. « Ah oui, cet oisillon. Non, laisse-le en repos. Il est maintenant changé en corbeau. »« Ne fais pas de grands yeux. Ce n'est pas encore le délire. Envoie un express à Anna Sergeïevna Odintsov. C'est une propriétaire des environs. » Vassili Ivanovitch lui fit signe de la tête qu'il la connaissait. « Fais-lui dire, Eugène Bazarov vous salue, et vous faites annoncer qu'il se meurt. Tu m'entends ? Tu seras satisfait. Mais comment pourrais-tu mourir, toi, Eugène ? Je t'en fais juge. Où serait, après cela, la justice dans le monde ? Je n'en sais rien, mais envoie l'express. À l'instant même, et je lui donnerai une lettre. Non, c'est inutile. Fais-la saluer de ma part, cela suffira. Quant à moi, je vais retourner à mes chiens rouges. C'est étrange. Je voudrais arrêter ma pensée sur la mort, et je n'y réussis pas. Je vois une espèce de tache et rien de plus. » Il se retourna péniblement du côté du mur et Vassili Ivanovitch sortit du cabinet. Arrivé dans la chambre de sa femme, il tomba à genoux devant les images. « Prions, Arina, prions Dieu » s'écria-t-il en gémissant. « Notre fils se meurt. » Le médecin du district, celui-là même qui n'avait point de pierre infernale, arriva. Et, ayant examiné le malade, il conseilla de s'en tenir à une méthode expectante et ajouta quelques phrases propres à donner l'espoir d'une guérison. « Vous avez donc vu des hommes qui, étant dans ma position, ne partaient point pour les Champs-Élysées ? » lui demanda Bazarov. Et, au même instant, il saisit par le pied une lourde table qui se trouvait près du divan, l'ébranla et la fit changer de place. « La vigueur, dit-il, toute la vigueur est encore là, et il faut mourir. Un vieillard a eu du moins tout le temps de se déshabituer de la vie. Mais moi, nier, nier. Qu'on s'avise de nier la mort, c'est elle qui vous nie, et tout est dit. « J'entends pleurer là-bas, ajouta-t-il après un court silence. C'est ma mère, pauvre femme, à qui fera-t-elle manger maintenant son fameux porch ? Et toi aussi, Vassili Ivanovitch, je vois que tu pleurniches. Si le christianisme ne te suffit pas, tâche d'être philosophe. Rappelle-toi les stoïciens. Tu te vantais, je crois, d'être philosophe. Moi, philosophe, s'écria Vassili Ivanovitch, et des larmes ruisselèrent sur ses joues. L'état de Bazarov empirait d'heure en heure. Les progrès de la maladie étaient rapides, comme c'est presque toujours le cas dans les infections chirurgicales. Il avait encore toute sa tête et comprenait ce qu'on lui disait. Il luttait encore. « Je ne veux pas délirer, » répétait-il à voix basse en serrant les poings. « C'est par trop bête. » Et il ajoutait aussitôt, « Qui de 8 hôtes 10, combien reste-t-il ? » Vassili Ivanovitch marchait comme un fou dans la chambre, proposait toutes sortes de remèdes et recouvrait à tout moment les pieds de son fils. « Il faudrait l'envelopper dans des draps froids, un vomitif, des synapismes sur l'estomac, une saignée, » disait-il avec effort. Le médecin qui l'avait supplié de rester l'approuvait, donnait de la limonade au malade et demandait pour lui-même tantôt une pipe, tantôt du fortifiant et du réchauffant, c'est-à-dire de l'eau-de-vie. Arina Vlasyevna restait assise sur un petit banc près de la porte et ne quittait par moments cette place que pour aller prier. Peu de jours auparavant, elle avait laissé tomber son miroir de toilette qui s'était brisé, ce qu'elle avait toujours considéré comme un présage des plus sinistres. Anfissouchka, elle-même, ne savait que lui dire. Timofeïtch était parti avec le message du mourant pour Madame Odintsov. La nuit fut mauvaise pour Bazarov. Il était en proie à une chaleur dévorante. Son état s'améliora un peu avec le jour. Il pria Arina Vlasyevna de le peigner, lui baisa la main et avala 2 ou 3 cuillerées de thé. Vassili Ivanovitch reprit un peu d'espoir. « Dieu soit loué, répétait-il, la crise s'est déclarée, la crise est passée. » « Voyez, dit Bazarov, ce que peut un mot. Ce mot de crise lui est venu à l'esprit et il en est tout consolé. C'est une chose étrange que l'influence qu'ont les mots sur les hommes. Qu'on appelle un homme imbécile sans le battre, et il en est tout affecté. Qu'on le complimente sur son esprit sans lui donner de l'argent, et il se sent heureux. » Ce petit discours rappela à Vassili Ivanovitch les sorties auxquelles Bazarov se livrait étant bien portant, et il en parut enchanté. « Bravo, c'est parfaitement vrai, et bien dit. Bravo, » s'écria-t-il en faisant semblant de battre des mains. Bazarov sourit tristement. « Qu'en penses-tu, décidément ? » demanda-t-il à son père. « La crise est-elle passée ou se déclare-t-elle ? » « Tu te trouves mieux, voilà ce que je vois. Voilà ce qui me réjouit, » répondit Vassili Ivanovitch. « À merveille ! Il est toujours bon de se réjouir. Mais a-t-on envoyé là-bas, tu sais ? » « Certainement. Le mieux ne fut pas de longue durée. Les accès se renouvelèrent. » Vassili Ivanovitch se tenait auprès de son fils. Une angoisse toute particulière semblait tourmenter le vieillard. Il essaya vainement plusieurs fois de parler. « Eugène, s'écria-t-il enfin, mon enfant, mon cher, mon bon fils. » Cet appel inattendu fit impression sur Bazarov. Il tourna un peu la tête, tenta visiblement de rejeter le poids qui pesait sur son intelligence, et dit « « Quoi, mon père ?»« Eugène !» continua Vassili Ivanovitch, et il tomba à genoux près de Bazarov, quoique celui-ci tint ses yeux fermés et ne put le voir. « Eugène, tu te sens mieux, et tu guériras avec la grâce de Dieu. Mais profite de cet instant, procure à ta pauvre mère et à moi la plus grande des satisfactions. Remplis tes devoirs de chrétien. Il m'a fallu un grand courage pour te proposer, mais il est encore plus terrible. C'est pour l'éternité, Eugène. Songe-y bien. » La voix du vieillard s'éteignit, et une contraction étrange se promena lentement sur les traits de son fils, qui continuait à rester couché les yeux fermés. « Si cela peut vous faire plaisir, j'y consens, » dit-il enfin. « Mais il me semble que cela ne presse pas. Tu viens de me dire toi-même que j'allais mieux. »« Mieux, oui, Eugène, mais on ne peut répondre de rien. Tout dépend de la volonté de Dieu. Et pour remplir un devoir... » « J'attendrai encore, » reprit Bazarov. « Tu dis toi-même que la crise vient de commencer. Si nous nous trompons, qu'importe. On donne bien l'absolution aux malades qui sont sans connaissance. » « Au nom du ciel, Eugène !»« J'attendrai pour le moment. J'ai envie de dormir. Laisse-moi. » Et il remit sa tête sur l'oreiller. Le vieillard se releva, s'assit dans son fauteuil, et le menton appuyé sur la main, il se mit à se mordre les doigts. Le bruit d'une voiture à ressort, ce bruit qu'on perçoit si facilement au milieu du silence de la campagne, frappa subitement ses oreilles. Le roulement des roues légères approchait de plus en plus. On distinguait déjà le souffle des chevaux. Vassili Ivanovitch sauta du fauteuil et courut à la fenêtre. Une voiture à deux places, attelée de 4 chevaux de front, entrait dans la cour de sa petite maison. Ne se rendant point compte de ce que cela pouvait signifier, mais saisi d'un accès de joie irréfléchi, il courut à la porte. Un laquais en livrée ouvrait la voiture, et une femme en mantille noire et la figure cachée par un voile en descendait. « Je suis Madame Odintsov, » dit-elle. « Eugène Vassilitch est-il encore en vie ? Vous êtes son père ? J'ai amené un médecin. »« Soyez béni !» s'écria Vassili Ivanovitch, et lui saisissant la main, il la pressa convulsivement sur ses lèvres, pendant que le médecin dont venait de parler Madame Odintsov, un petit homme à lunettes et à la physionomie allemande, sortait lentement de la voiture. « Il est encore vivant, mon Eugène, et il sera sauvé maintenant. Ma femme, un ange nous est arrivé du ciel. »« Qu'y a-t-il, grand Dieu ?» balbutia Arina Vlasievna, qui accourut du salon et, tombant aux pieds d'Anna Sergeyevna dans l'antichambre même, elle se mit à lui baiser la robe comme une insensée. « Wo ist der Kranke ? Où est le malade ?» demanda enfin le docteur d'un air impatient. Ces mots rappelèrent Vassili Ivanovitch à la raison. « Ici, ici, veuillez me suivre, Werthester Herr Kollege, » ajouta-t-il en souvenir de son ancien état. « Eh !» dit l'Allemand avec un aigre sourire. Vassili Ivanovitch le conduisit dans le cabinet. « Voici un médecin envoyé par Anna Sergeyevna Odintsov, » dit-il en se baissant jusqu'à l'oreille de son fils. « Et elle est ici elle-même. » Bazarov ouvrit soudainement les yeux. « Qu'as-tu dit ? Je t'ai annoncé qu'Anna Sergeyevna Odintsov était ici et qu'elle t'avait amené ce respectable docteur. » Bazarov promena ses yeux dans la chambre. « Elle est ici, je veux la voir. » « Tu la verras, Eugène, mais il faut d'abord causer un peu avec monsieur le docteur. Je vais lui conter toute l'histoire de ta maladie, puisque Sidor Sidorich, c'était le nom du médecin du district, est parti. » « Et nous allons faire une petite consultation. » Bazarov regarda le médecin. « Eh bien, termine avec lui le plus vite possible. Mais ne parlez pas latin, car je comprends ce que signifie « Iam moritur ».« Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein », dit le disciple d'Esculape en se tournant vers le vieillard. « Ich, Gabe, parlez russe, cela vaudrait mieux, » répondit Vassili Ivanovitch. « Ah, c'est donc comme cela, soit !» Et la consultation commença. Une demi-heure après, Anna Sergeyevna, accompagnée de Vassili Ivanovitch, entra dans le cabinet. Le docteur avait eu le temps de lui glisser à l'oreille que l'état du malade était désespéré. Elle jeta les yeux sur Bazarov et s'arrêta près de la porte, tant cette figure enflammée, quoique déjà mourante, ses yeux troubles qui la regardaient fixement, lui causèrent une impression terrible. Elle se sentit glacée, saisie d'une peur accablante. La pensée qu'elle aurait ressenti tout autre chose si elle l'avait réellement aimé traversa rapidement son esprit. « Merci, » lui dit-il avec effort, « je ne l'espérais pas. C'est une bonne action. Nous nous revoyons encore une fois, comme vous me l'aviez prédit. Anna Sergueïevna a eu la bonté. Mon père, laissez-nous. Anna Sergueïevna, vous le permettez? Je crois que maintenant... » D'un mouvement de tête, il semblait lui dire qu'elle n'avait rien à redouter d'un mourant. Vassili Ivanovitch sortit. « Allons, merci, » répéta Bazarov. « C'est tout à fait royal. On dit que les souverains se rendent ainsi au chevet des mourants. » « Eugène Vassilievitch, j'espère. » « Non, Anna Sergueïevna. Ne cherchons pas à nous tromper. Tout est fini pour moi. Je suis tombé sous la roue. Vous voyez bien que j'avais raison de ne pas me préoccuper de l'avenir. C'est une vieille histoire que la mort. Et pourtant, c'est du nouveau pour chacun. Je n'ai pas peur jusqu'à présent. Puis je perdrai connaissance. Et, pht, il fit un léger signe de la main. Mais que pourrais-je vous dire encore? Que je vous ai aimé? Cela n'avait pas de sens auparavant, et maintenant moins que jamais. L'amour est une forme, et ma propre forme va se dissoudre. Je vous dirai plutôt, comme vous êtes belle. Tel que je vous vois là, devant moi, Anna Sergueïevna tressaillit involontairement. Ce n'est rien, ne vous en inquiétez pas. Asseyez-vous là-bas. Ne vous approchez pas de moi. Le mal dont je suis atteint est contagieux. Anna Sergueïevna traversa rapidement la chambre pour se rapprocher de lui et s'assit dans un fauteuil près du divan. « Quelle générosité !» dit Bazarov à voix basse. « Comme elle est prête. Si jeune, si fraîche, si propre dans cette vilaine chambre. Allons, adieu. Vivez longtemps, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, et jouissez de la vie tant qu'il n'est pas trop tard. Voyez quel hideux spectacle, un verre à moitié écrasé et qui se tortille encore. Je me croyais sûr d'abattre bien de la besogne. Mourir, moi? Ah bah, j'ai une mission. Je suis un géant, et à cette heure toute la mission du géant consiste à mourir avec décence, quoique cela n'intéresse personne. Peu importe, je ne ferai pas le chien couchant. Bazarov se tut et se mit à chercher son verre de la main. Anna Sergueïevna lui donna à boire sans ôter ses gants et en retenant sa respiration. « Vous m'oublierez, reprit-il, les morts ne sont plus rien pour les vivants. Mon père vous dira que la Russie vient de perdre un homme qui lui était bien précieux. Ce sont des radotages. Mais laissez au vieillard ses illusions. À un enfant, tous les amusements sont bons, vous savez. Consolez-le, et ma mère aussi. Dans votre grand monde, vous ne trouverez pas de pareils gens, même en les cherchant une lanterne à la main. Moi, nécessaire à la Russie? Non, il paraît que non. Qui donc lui est nécessaire? Un cordonnier est un homme nécessaire, un tailleur est nécessaire, un boucher, il vend de la viande. Un boucher, attendez, je m'embrouille. Il y a là un bois. Bazarov posa la main sur son front. Madame Odintsov se pencha vers lui. Eugène Vassilievitch, je suis toujours là. Il retira sa main et se souleva tout à coup. Adieu, dit-il avec une énergie subite, et ses yeux brillèrent pour la dernière fois. « Adieu. Écoutez, je ne vous ai pas embrassé l'autre jour. Soufflez sur la lampe qui se meurt, et qu'elle s'éteigne. » Madame Odintsov posa ses lèvres sur le front du mourant. « Assez, » reprit-il, et sa tête retomba. « Maintenant, les ténèbres. » Madame Odintsov sortit sans bruit. « Eh bien, » lui demanda Vassili Ivanovitch à demi-voix, « Il s'est endormi, » répondit-elle encore plus bas. Bazarov ne devait plus se réveiller. Il perdit complètement connaissance dans la soirée et mourut le lendemain. Le père Alexis lui rendit les derniers devoirs. lorsqu'on lui donna l'extrême onction, lorsque l'huile consacrée coula sur sa poitrine, un de ses yeux s'ouvrit, et on eût dit qu'à la vue de ce prêtre dans son costume sacerdotal, de cet encensoir fumant et de ses cierges allumés devant les images, quelque chose qui ressemblait à un frémissement de terreur passa sur sa figure décomposée, mais cela ne dura qu'un instant. Quand il eut rendu le dernier soupir et que la maison retentit de gémissements, Vassili Ivanovitch fut saisi d'un transport subit. « J'avais promis de me révolter, » criait-il d'une voix enrouée. La figure enflammée et bouleversée, les poings levés comme s'il eût menacé quelqu'un en l'air. « Et je me révolterai. » Mais Arina Vlasyevna, tout en larmes, se pendit à son cou, et ils tombèrent ensemble la face contre terre. « Absolument comme deux agneaux, » raconta ensuite Anfissouchka dans l'antichambre, « comme deux agneaux au plus fort de la chaleur. » Ils se prosternèrent en même temps et côte à côte. Mais la chaleur du jour passe et le soir vient, et ensuite la nuit qui ramène dans un tranquille asile tous les éprouvés et les fatigués. Chapitre 26. 6 mois après, l'hiver était venu. L'hiver, avec le terrible silence de ses gelées, la neige compacte et criarde, le givre rosé sur les branches des arbres, les dômes de fumée épaisse au-dessus des cheminées se détachant sur un ciel d'un bleu pâle et sans nuages, les tourbillons d'air chaud s'élançant des portes ouvertes, les figures fraîches et comme mordillées des passants et le trot pressé des chevaux saisis par le froid. Une journée du mois de janvier touchait à sa fin. Le froid du soir condensait davantage encore l'air immobile et le crépuscule couleur de sang s'éteignait avec rapidité. Les fenêtres de la maison de Marino s'éclairaient l'une après l'autre. Prokofitch, en habit noir et en gants blancs, disposait avec un air de dignité toute particulière 5 couverts sur la table de la salle à manger. Une semaine auparavant, 2 mariages avaient eu lieu, silencieusement et presque sans témoins, dans la petite église de la paroisse. Arkade s'était uni à Katia et Kirsanov à Fenichka, et Kirsanov donnait un dîner d'adieu à son frère qui se rendait à Moscou pour affaires. Anna Sergeyevna était partie également pour cette ville, après avoir fait de riches cadeaux aux jeunes mariés. On se mit à table à 3 heures précises. Mitya était au nombre des convives. Il avait déjà une bonne en kokochnik de soie brochée d'or. Paul Petrovitch se trouvait placé entre Katia et Fenichka. Les nouveaux époux étaient assis près de leur femme. Nos anciens amis avaient un peu changé dans ces derniers temps. Ils étaient embellis, ou du moins engraissés. Paul Petrovitch lui seul avait maigri, mais cela ajoutait encore à la distinction de ses traits. Fenichka n'était pas la même non plus. En robe de soie noire, un large nœud de velours dans les cheveux, une chaîne d'or au cou, elle se tenait assise dans une respectueuse immobilité, non moins respectueuse pour elle-même que pour tous ceux dont elle était entourée. Et elle souriait comme si elle eût voulu dire « Excusez-moi, je n'y suis pour rien ». Au reste, tous les autres convives avaient le sourire sur la bouche et semblaient aussi demander pardon. Tous se sentaient un peu embarrassés, un peu tristes, et pourtant parfaitement heureux. Chacun avait pour son voisin des prévenances plaisantes. On semblait s'être donné le mot pour jouer je ne sais quelle comédie pleine de bonhomie. Katia était la plus tranquille de tous. Elle regardait autour d'elle avec confiance, et il était facile de voir que Kirsanov l'aimait déjà à la folie. Il se leva avant le dîner, un verre de vin de champagne à la main, et se tournant vers Paul Petrovitch, « Tu nous quittes, mon cher frère, lui dit-il. Pour peu de temps, je l'espère, mais je ne puis pourtant pas résister au désir de t'exprimer combien nous, le malheur est que nous autres Russes, nous ne savons pas faire de speech. » « Arkade, parle à ma place. »« Non, papa, je ne m'y suis point préparé. »« Tu es toujours mieux préparé que moi. »« Enfin, mon cher frère, permets-moi tout simplement de t'embrasser et de te souhaiter tout le bonheur possible. »« Reviens ici le plus tôt que tu pourras. » Paul Petrovitch embrassa tout le monde, sans en excepter, bien entendu, Mitya. Il baisa en outre la main de Fenichka et celle-ci la lui tendit assez gauchement. Puis, ayant bu un second verre de champagne qu'on venait de lui verser, il s'écria avec un profond soupir Soyez heureux, mes amis. Farewell. » Ce petit mot d'anglais passa inaperçu. Tous les convives étaient trop émus. « À la mémoire de Bazarov, » dit Katia à l'oreille de son mari, et elle trinqua avec lui. Arkad serra la main de Katia, mais il n'osa point proposer ce toast. Tout est fini, ce me semble, mais quelques-uns de nos lecteurs souhaiteront peut-être de savoir ce que font à cette heure les divers personnages dont nous venons de parler. Nous ne demandons pas mieux que de les satisfaire. Anna Sergeyevna s'est mariée tout récemment. Elle a fait un mariage de raison. Celui qu'elle a pris pour mari est un de nos futurs hommes d'action, légiste intelligent, doué d'un sens pratique très développé, d'une volonté ferme et d'une grande facilité d'élocution. D'ailleurs, encore assez jeune, bon et d'une froideur glaciale. Ils font très bon ménage et finiront peut-être par atteindre au bonheur domestique, peut-être même à l'amour. La princesse X est morte et oubliée depuis le jour de son décès. Le père et le fils Kersanov se sont établis à Marino, leurs affaires commencent à marcher un peu mieux. Arkad est devenu un bon agronome, et la ferme rapporte déjà un revenu assez considérable. Nicolas Petrovitch a été choisi pour juge de paix et remplit ses fonctions avec le plus grand zèle. Il parcourt sans cesse le district qui lui est assigné, prononce de longs discours, car il pense que le paysan a besoin d'être bien raisonné. C'est-à-dire qu'il faut lui répéter la même chose jusqu'à satiété. Et cependant, à dire vrai, il ne parvient pas à satisfaire pleinement ni messieurs les gentilshommes éclairés qui discutent sur la mancipation, tantôt avec affectation, tantôt avec mélancolie, ni les seigneurs incultes qui maudissent ouvertement cette malheureuse mancipation. Les uns et les autres le trouvent trop mou. Il est né un fils à Katerina Sergeyevna. Et Mitya est déjà un petit gaillard qui court et bavarde assez gentiment. Fenichka, maintenant Fedosia Nikolaïevna, n'aime personne au monde, après son mari et son fils, autant que sa belle-sœur, et lorsque celle-ci se met au piano, elle resterait volontiers à ses côtés toute la journée. N'oublions point Pierre. Il est devenu tout à fait stupide et plus gonflé d'importance que jamais. Cela ne l'a pas empêché de faire un mariage assez avantageux. Il a épousé la fille d'un jardinier de la ville, qu'il a préférée à deux autres promis, parce que ceux-ci n'avaient point de montre, tandis que lui possédait non seulement une montre, mais même des bottines vernies. On peut rencontrer à Dresde, sur la terrasse de Brühl, entre 2 et 3 heures, temps le plus fashionable pour la promenade, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux tout blancs, et qui paraît souffrir de la goutte, mais encore beau, à la mise élégante, et ayant ce cachet particulier que donne l'habitude du grand monde. Ce promeneur n'est autre que Paul Petrovitch Kersanov. Il a quitté Moscou par raison de santé. Il s'est fixé à Dresde, où il fréquente surtout les Anglais et les voyageurs russes. Avec les premiers, ses manières sont simples, presque modestes, quoique toujours dignes. Il le trouve un peu ennuyeux, mais le considère comme un parfait gentilhomme, « a perfect gentleman ». Plus à son aise avec les Russes, il donne pleine liberté à son humeur bilieuse, se persifle lui-même et ne ménage point les autres. Mais il fait tout cela avec un aimable laisser-aller et sans jamais manquer aux convenances. Il professe d'ailleurs les opinions des slavophiles, et chacun sait que dans la haute société russe, cette manière de voir passe pour très distinguée. Il ne lit aucun livre russe, mais on remarque sur son bureau un cendrier en argent ayant la forme d'un lapote de paysan. Nos touristes le recherchent beaucoup. Matvei Ilitch Kolyazin, qui s'est placé momentanément dans les rangs de l'opposition, lui a fait une visite solennelle en se rendant aux eaux de Bohême. Et les habitants de la ville, avec lesquels il n'a point du reste de rapport suivi, semblent lui porter une sorte de vénération. Personne ne peut obtenir aussi facilement que le Herr Baron von Kersanov un billet d'entrée à la chapelle de la cour, une loge, etc. Il fait toujours autant de bien que possible et toujours un peu de bruit. Ce n'est pas en vain qu'il a été un lion autrefois. Mais la vie lui est à charge, plus encore qu'il ne le soupçonne. Il suffit de le voir à l'église russe, lorsque se tenant à l'écart, appuyé contre le mur, il se met à rêver et reste immobile, les lèvres amèrement serrées. Puis, se secouant tout à coup, il commence à se signer d'une façon presque imperceptible. Madame Kukshin a fini aussi par quitter le pays. Elle est actuellement à Heidelberg et n'y étudie plus les sciences naturelles, mais l'architecture. Elle y a découvert, à ce qu'elle dit, de nouvelles lois. Comme autrefois, elle hante les étudiants et surtout les jeunes physiciens et les chimistes russes, dont Heidelberg est rempli, et qui, après avoir stupéfié les naïfs professeurs allemands dans les premiers temps de leur séjour par la rectitude de leur jugement, les stupéfient encore bien plus, peu de temps après, par leur complète oisiveté et leur paresse sans exemple. C'est avec deux ou trois chimistes de cette force, ne sachant point distinguer l'oxygène de l'azote, mais critiquant tout et très satisfait d'eux-mêmes, que Sitnikov, accompagné du grand Elisevitch, et se disposant aussi à mériter ce titre honorable, se traîne à Pétersbourg et continue, suivant son expression, l'œuvre de Bazarov. On assure qu'il a été rossé, il y a peu de temps, mais non sans prendre sa revanche. Il a donné à entendre, dans un obscur article qui apparut dans un obscur journal, que son agresseur était un poltron. Il nomme cela de l'ironie. Son père le fait aller comme d'habitude. Sa femme le traite d'imbécile et de littérateur. Il existe un petit cimetière dans un des recoins les plus éloignés de la Russie. Ainsi que presque tous les cimetières chez nous, il présente un aspect des plus tristes. Les fossés qui l'entourent sont depuis longtemps comblés et envahis par les herbes, les croix de bois gisent à terre ou se tiennent à peine, toutes penchées sous les petits toits jadis peints qui les surmontent. Les pierres funéraires sont déplacées comme si quelqu'un les poussait par-dessous. Deux ou trois arbres presque dépouillés de leurs feuilles donnent à peine un peu d'ombre, des moutons qui paissent entre les tombes. Cependant, il en est une que la main de l'homme respecte, que les animaux ne foulent point aux pieds. Les oiseaux seuls viennent s'y poser et chanter chaque matin aux premières lueurs du jour. Une grille de fer l'entoure et deux jeunes sapins sont plantés à ses deux extrémités. Cette tombe est celle d'Eugène Bazarov. Deux personnes, un mari et sa femme, pliant sous le poids des années, viennent souvent la visiter d'un petit village des environs. Se soutenant l'un l'autre, ils s'approchent à pas lents de la grille, y tombent à genoux et pleurent longtemps et avec amertume, tiennent longtemps les yeux fixés sur la pierre muette qui recouvre leur fils. Ils échangent quelques paroles, essuient la poussière qui couvre la dalle funéraire, redressent une branche de sapin, puis ils se remettent à prier et ne peuvent se décider à quitter ce lieu où ils se croient plus rapprochés de leur fils, plus près de son souvenir. Est-il possible que leurs prières, que leurs larmes soient vaines? Est-il possible que l'amour pur et dévoué ne soit point tout-puissant? Oh non! Quelque passionné, quelque révolté que soit le cœur qui repose dans une tombe, les fleurs qui ont poussé sur elles nous regardent paisiblement de leurs yeux innocents. Elles ne nous parlent pas seulement du repos éternel, de ce parfait repos de la nature indifférente. Elles nous parlent aussi de l'éternelle réconciliation et d'une vie qui ne doit pas finir. Fin du roman.